Ce podcast a été réalisé à partir de l'enregistrement du webinaire organisé par GPS Cancer le 2 avril 2024 sur le thème « Cancer et éducation thérapeutique du patient » avec l'intervention d'Éléonore Piau-de-Villard, patiente partenaire et formatrice à l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient de Curie, ainsi que de Claire Lambriche-Molines, infirmière en pratique avancée, spécialisée en éducation thérapeutique du patient à Curie également. Nous parlerons ici sur les freins et les leviers à la mise en place des programmes de TP.
Le dispositif de l'éducation thérapeutique, ça bouscule énormément l'institution. C'est quelque chose, c'est un peu un gravier quelque part, hein, parce que vous comprenez bien que cet ancrage humaniste, centré sur la personne, etc., bon, ben, des fois, ça peut aller à l'encontre aussi de buts poursuivis des institutions qui ont d'autres manières de manager pour survivre, pour faire du bénéfice, des fois, enfin, ça dépend, je parle en général, hein. Et donc, quand on met en place ces dispositifs-là, pour ces raisons que je dis là, et aussi pour des raisons d'ordre purement organisationnel, finalement, c'est un travail colossal en interne pour faire bouger les lignes de la part des équipes qui s'engagent dans la mise en place de l'éducation thérapeutique. Parce qu'il est plus difficile de faire bouger les lignes du côté de l'institution que de faire bouger les lignes du côté des patients. Si on ouvrait les portes du côté des patients, tout le monde s'engouffrerait, bien évidemment. Sauf que l'institution derrière nous bloque et les gens sont très lents à faire évoluer, changer, comprendre que ça peut rentrer dans les soins, comprendre qu'on peut venir animer un atelier, faire un atelier avec 10 personnes, c'est gagner du temps par rapport à X consultations de 10 personnes qui prendront 10 fois plus de temps. Et c'est aussi gagner d'efficience parce que les gens se retrouvant entre eux, ils ont plus d'énergie, plus de force que quand ils sont tout seuls face à une blouse blanche. Enfin voilà. Et tout ça, c'est long parce que ça veut dire changer les mœurs, changer la manière de changer l'activité, la manière, les habitudes qu'ont les gens. C'est aussi changer le rapport au pouvoir, changer le rapport au savoir. Et ça, c'est très compliqué dans l'institution. Donc, il faut imaginer que quand on arrive à déployer un dispositif, par exemple, comme le nôtre, ou bien tout ce qu'ils ont fait à Angers ou à Lyon, enfin, c'est des gens que je connais bien, même à Rouen, etc., il faut imaginer que derrière, les équipes soignantes, elles déploient un travail de dingue pour pouvoir creuser un trou du côté de l'institution, en fait. On a recruté des animateurs, c'est un casse-tête chinois. Les cadres nous mettent des bâtons dans les roues, les cadres sup nous mettent des bâtons dans les roues.
Enfin, est-ce que je peux, Claire, je vais rebondir ce que tu dis. Il faut bien comprendre que l'ARS finance à peu près 250 euros par patient pour un programme d'ETP. Donc c'est très très mal payé s'il y a 4 ateliers plus un bilan éducatif partagé. Vous comprenez bien que ça ne fait pas grand-chose. Plus deux bilans éducatifs, ça fait six.
Deux bilans éducatifs et deux ateliers minimum.
Ouais. Donc, vous comprenez bien que c'est très mal financé. Donc, les institutions de santé, ils ont tout intérêt à facturer du soin plutôt que de facturer de l'ETP. Et c'est pour ça que les établissements de santé mettent un peu sous le tapis l'ETP. Après, il y a une question que moi, je prends.
Sauf que, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure dans mon exposé, étant donné que l'ETP est dans la loi, et que c'est dans la certification, les établissements de santé sont obligés d'en déployer quand les malades sont chroniques, d'accord ? Et donc, quelque part, c'est notre levier le plus puissant aux équipes pour obliger l'établissement à soutenir notre initiative. Mais pour tenir la barre, pour la déployer comme on en a envie, c'est compliqué parce qu'il faut jouer sur ce chantage-là, de dire, si tu veux cocher ta case, alors il faut nous laisser déployer l'activité. Mais c'est pas évident, quoi.
Je vais juste rebondir à une remarque concernant le fait que nous ne soyons pas payés en tant que patient partenaire. Ça, c'est un choix de chacun, c'est le choix de l'établissement. Il me semble que nous, en tant que patient partenaire, on a la chance, on n'est pas des patients plantes vertes, et on a la chance d'être associés à de la recherche interventionnel sur des programmes d'ETP. On est associé à l'écriture d'articles de recherche. On nous propose plein de choses. On bénéficie de formations en interne. On est reconnus comme des professionnels de l'ETP. ce qui, pour moi, vaut toutes les rémunérations. Donc, il y a peut-être qu'ailleurs, les patients partenaires sont rémunérés. Ça évoluera à l'Institut Curie. C'est en cours de discussion pour le moment. Après, libre à chacun d'accepter de faire de l'ETP à Curie en n'étant pas payé ou d'aller voir ailleurs. Voilà.
Il faut expliquer que ce champ-là, c'est un champ aussi d'évolution et de débat au niveau national, hein. Le statut des patients partenaires, c'est très important. Que pour le moment, on est sur des, on va dire des essais, enfin, on est sur des projets de recherche mécénés pour montrer combien il y a de la plus-value, combien ça marche, combien c'est efficace, c'est-à-dire on est sur des phases d'évaluation, hein, de donner un statut à des patients partenaires. Il faut aussi rappeler que quand même dans la loi qui est prévue d'être votée là ou modifiée, il est prévu des parcours de soins avec du partenariat patient, qui n'est pas que dans l'ETP, qui est aussi des patients sentinelles, des patients de parcours, il y a plein de typologies en fait. Et donc, il va bien falloir que ça se développe. Et je crois que finalement, c'est un vrai champ sur lequel il faut tenir et sur lequel il faut se positionner de manière intelligente. Parce que voilà, c'est une ouverture qui va se faire en fait, qui va éclore, je pense. Et notamment, il y a déjà des patients qui ont été embauchés dans d'autres structures à des postes, hein, en tant que patients partenaires dans l'institution. Donc, il y a des institutions qui sont arrivées juridiquement, finalement, à justifier un salaire et à justifier un statut. Parce que ça pousse les lignes des conventions collectives, en fait. Ça pousse les lignes des statuts, des typologies d'emploi. Ça pousse les lignes aussi des devoirs auxquels sont soumis les professions. Par exemple, les professions, nous, on est soumis à plein de devoirs, de confidentialité, de devoirs d'information, de devoirs de, je sais pas moi, de soins, obligation de moyens, pas de résultats. Enfin voilà, on a comme ça toute une liste d'obligations. Et finalement, les gens venant travailler avec nous, les collaborateurs, voilà, ça veut dire qu'il faut explorer tous ces champs-là pour sécuriser l'activité et pour que tout se passe au mieux finalement. Et je trouve que ça, bon, ça prend du temps, mais ça fait évoluer les mentalités, évoluer les ça bouge tout doucement, à droite à gauche. Et avec Éléonore, on est en train de percer des trous là.
On intervient ensemble dans les masters, en master et en
Voilà.
formation pour les professionnels de santé. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est que le début.
Ouais.
Voilà. En tout cas, même s'il n'y a pas la rémunération, il y a une vision du patient partenaire intégré dans l'équipe. Et ça, c'est génial. On participe aux réunions de staff. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hôpitaux où on fait ça. Concernant l'ETP. Et Françoise, tu m'avais interrogée pour me demander comment ça se passait ailleurs. Alors, j'ai la chance
Oui.
d'intervenir quand on disait qu'on peut être transversal, c'est-à-dire sortir de sa pathologie. J'interviens notamment dans des programmes de douleur. Oui, j'ai fait l'expérience de la douleur. Donc, j'interviens ailleurs dans des programmes qui ont été mis en place par des associations dans des hôpitaux en Seine-et-Marne où j'interviens sur des ateliers activité physique et douleur pour des patients douloureux chroniques qui ont sont pas forcément tous passés par la phase cancer. Donc là, on va lever des freins pour la reprise de l'activité physique. Comment je vois l'activité physique? Qu'est-ce que c'est? Comment je peux la pratiquer? Comment je peux parler du fait que j'ai pas forcément envie de reprendre la course à pied à mon mari qui veut que j'aille courir, mais j'ai super mal, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'hôpitaux maintenant, d'associations qui mettent en place des programmes. Claire en a parlé. Et je voulais rajouter quelque chose en tant que patient partenaire. C'est aussi important. On fait partie d'une communauté. Moi, je ne suis pas seule Éléonore dans mon coin. Je suis avec mes copines patientes partenaires de l'UTEP. Et surtout, je fais partie de plusieurs associations de patients, dont GPS, un cancer. Et donc, on est un peu le porte-voix on va en fait redire l'expérience des autres patients. Donc, c'est important de ne pas être patient partenaire dans son coin, de se faire un petit peu l'ambassadeur des patients qui ont la même pathologie que vous, mais pas que, pour un peu comprendre le vécu, les difficultés auxquelles sont exposés les autres patients atteints d'un cancer gynécologique, atteints d'un cancer du sein, etc. Et mes copines patientes partenaires à Curie, elles font partie d'associations de patients comme moi.